Vous êtes sur Radio Grand Ciel. Installez-vous confortablement pour entrer dans l'univers des short stories d'écrivaine britannique avec Janine Rogers. À la technique, Simon Martin. Le Rouge au front, nouvelle d'Elizabeth Taylor, apparue, ainsi qu'une dizaine d'autres dans le New Yorker. Écrites dans les années 50, elles ont pour thème la vie quotidienne, banale, d'anglais de la classe moyenne de l'époque. Mrs. Allen et la femme qui, chaque jour, venait faire le ménage avaient le même âge. « Je n'aurai plus d'enfants maintenant », commençait à se dire Madame Allen. Quelque chose lui avait échappé, et c'était l'essentiel de sa vie. Elle s'était toujours imaginé ses enfants dans de petites scènes fugaces, des prémonitions qui ressemblaient à des extraits de films. Elle avait eu la vision précise de leurs petits mentons haut levés quand, à l'heure du repas, elle leur mettait leur bavoir. Leurs corps nus avaient sautillé sous l'arroseur automatique de la pelouse et elle avait entendu leur voix dans le jardin ou le matin quand ils étaient encore au lit. Elle avait même versé quelques larmes en pensant au jour où l'aîné des garçons partirait en pension. Elle imaginait le train sortant de la gare. Elle agiterait la main, aurait la gorge serrée et ses lèvres trembleraient quand elle se forcerait à sourire. Le passage des années lui avait petit à petit enlevé tout ce qui donnait à ses scènes leur accent de vérité. Les bruits joyeux, la calme gravité à laquelle elle aspirait, jusqu'à l'orgueil du chagrin. Tandis qu'elles s'affairaient toutes deux dans la cuisine, Mrs. Allen prêtait l'oreille au récit des démêlés de Mrs. Lacey avec sa famille, à ses récriminations contre son grand pendard de fils qui, le dimanche, refusait de se lever avant l'heure du repas et s'attendait à ce que sa mère ait nettoyé ses chaussures. Puis venait le tour de sa fille de 18 ans, la coiffeuse, qui prenait des manières de dame à force de lire des magazines, et celui de l'adolescente qui se morfondait du matin au soir, lançait des regards noirs et répondait à sa mère. « Mes enfants n'auraient pas tourné comme cela, » songeait Mrs. Allen en répondant à mi-voix. « Il y en a, plus qu'on en fait pour eux, plus ils en veulent, » disait Mrs. Lacey. Mais à ce qu'avait entendu Mrs. Allen dans le village, elle ne se donnait pas tant de peine. Soir après soir, pendant des années, les enfants avaient dû courir chercher du poisson et des frites alors que leur mère buvait des bières brunes au cheval et au jockey. Les soirs d'été, quand ils étaient plus jeunes, on les voyait traîner devant le pub. Lorsqu'ils s'ennuyaient, ils appuyaient le front contre la vitre pour voir ce qui se passait dans le petit bar sombre et écouter les rires sonores. Elle travaille si dur qu'elle a bien mérité de s'amuser de temps en temps avec les soucis qu'elle a, disait Mrs. Allen, qui aurait tant aimé en avoir des soucis. Jamais elle n'était entrée au cheval et jockey, qui était pourtant plus près de chez elle que l'échiquier, à l'autre extrémité du village, où son mari et elle allaient parfois boire un verre de sherry le dimanche matin. Les deux établissements n'avaient pas le même public. Au cheval et au jockey, on s'asseyait à des tables contre les murs, alors qu'à l'échiquier, on restait debout, un verre à la main, pour bavarder comme dans les cocktails. Bien des soirs, lorsque son mari était retenu à Londres, Mrs. Allen était tentée d'aller à l'échiquier boire un verre de sherry, faire un brin de conversation, mais elle était trop timide pour pousser seule la porte du pub. Elle imaginait les têtes qui se tourneraient vers elle, l'accueil étonné de leurs amis, tous honorablement flanqués de leurs conjoints, et les regards interrogatifs, mais lourds de sens, qui ne manqueraient pas de s'échanger lorsqu'elle s'en irait. Mrs. Lacey partait à midi. Il ne restait plus à Mrs. Allen qu'à s'occuper du jardin et à promener le chien. À partir de 6 heures, elle commençait à arpenter la maison d'un pas fébrile, vérifiant l'heure à toutes les pendules, guettant le vrombissement familier de la voiture de son mari. Presque toute sa vie de femme mariée, elle avait attendu ce bruit. Enfin, les pneus crissaient sur le gravier meuble. La portière claquait. Elle reconnaissait son pas pressé quand il marchait vers la véranda. Elle se rendait bien compte qu'à vivre ainsi, elle gaspillait ses plus belles années. En y ressongeant, elle n'arrivait même plus à les distinguer les unes des autres. Mais elle ne savait pas quoi faire d'autre. Humphrey gagnait de plus en plus d'argent. Impossible de l'arrêter. Quant aux gens qu'elle connaissait, ils se demandaient tous avec anxiété comment ils allaient payer les frais de scolarité de leurs enfants. Ah, Mrs. Lacey serait bien contente d'aller le jour où Maureen quitterait l'école pour aller gagner sa vie. « Faut que je fasse ma géométrie », qu'elle dit quand c'est l'heure de la vaisselle. « Je m'en vais te l'apprendre, moi, la géométrie », que je lui ai dit. « À ton âge, je gagnais déjà ma vie. » Mrs. Allen était fascinée par ce qui se passait dans cette maison, et sans avoir jamais vu les enfants, elle se les imaginait fort bien. Il n'y avait que M. Lacey dont l'image restait floue. Personne ne le connaissait. Il travaillait à 6 miles de là, dans la ville au fond de la vallée, et restait sur son camp à soi. Personne ne l'avait vu au cheval et au jockey. « J'ai mes amis », disait Mrs. Lacey avec désinvolture. « Après tout, il a presque 20 ans de plus que moi. Mes filles ne referont pas les mêmes erreurs et j'y veillerai. J'aimerais mieux la voir morte », j'ai dit à Vera. « Elle a de la chance, la môme de Aaron. D'avoir Ron, je veux dire. » Mrs. Allen trouvait cela bizarre car elle avait toujours entendu les plus pires choses sur Ron. À ce qu'elle avait compris, c'était un ours mal léché, un ingrat, aussi âpre au gain que près de ses sous. Et puis, il y avait ses chaussures qu'il refusait de nettoyer. Pas une jeune fille n'accepterait de faire ce que sa mère faisait ou disait faire pour lui. Mrs. Lacey poussait de grands soupirs. « Mon Dieu, si seulement j'avais leur âge, avec tout ce que je sais maintenant !» L'envie la dévorait. Elle enviait la belle maison de Mrs. Allen, les vêtements élégants. Elle était même jalouse de la jeunesse de ses filles. « Ah, si j'avais votre silhouette !» disait-elle à Mrs. Allen. Après 3 grossesses, évidemment, elle avait épaissi. Mrs. Allen se disait que toutes ces bières brunes qu'elle avalait au cheval et au jockey devaient quand même y être pour quelque chose. Et puis, il était souvent question de bons repas dans la conversation de Mrs. Lacey. Quelle qu'en fût la cause, sa chair mal corsetée tremblait lorsqu'elle arpentait la cuisine de son pas lourd. En été, quand elle avait les bras et les jambes nues, elle paraissait plus grosse que jamais. Bien que sa peau fût très blanche, elle donnait immédiatement, quand on la rencontrait, une impression de couleur avec ses cheveux orangés, ses lèvres peintes, ses éternelles robes à motifs floraux. Le vernis rouge de ses ongles de pied rutilait sous les lanières de ses sandales fantaisie. Autour du cou, elle portait un collier de perles bleues turquoises. Humphrey Allen ne l'avait jamais rencontrée. Il était toujours parti pour la gare quand elle arrivait et sa femme trouvait que c'était très bien ainsi. Quand elle parlait de Mrs. Lacey, elle se demandait souvent s'il imaginait une dame d'allure modeste dans un tablier blanc bien repassé. Elle ne l'avait pas délibérément induit en erreur, mais avait profité de son indifférence. Il n'aurait pas aimé ses conversations à cœur ouvert dans la cuisine avec Mrs. Lacey. Et puis, il aurait eu un haut le cœur en voyant ses pieds calleux, son vernis à ongles écaillé et ses talons jaunis. Un lundi matin, Mrs. Lacey était plus en retard que d'habitude. Jamais elle n'avait été très ponctuelle et les excuses ne lui manquaient pas. Sa bicyclette avait crevé, Maureen n'était pas bien, etc., etc. En l'attendant, Mrs. Allen tria tout le linge à laver. Quand elle regarda l'heure à la pendule, elle se dit qu'il était beaucoup trop tard pour qu'elle vînt désormais. Depuis quelque temps déjà, Mrs. Lacey avait l'air mal fichu, déprimée. Ses paupières, toujours chroniquement enflammées, paraissaient plus agressivement rouges que jamais, et devant son évier ou sa planche à repasser, il lui arrivait de rester étrangement silencieuse, d'oublier des choses, de soupirer à tout propos. Elle avait toujours aimé parler du « changement », mais elle l'évoquait maintenant avec une sorte d'espérance éperdue. « Vous m'excuserez si je suis mal fichue, » dit-elle à Mrs. Allen le lendemain matin. « Je me sens encore bizarre, de ces brûlures d'estomac. C'est pas bon signe, vous savez. J'ai envie de manger que des noix, exactement comme quand j'attendais Maureen. J'aime pas du tout ça, mais pas du tout. Je crois que je me jetterai à l'eau si ça recommence. » Mrs. Allen, stupéfaite, était d'humeur combative. « Pas à votre âge, quand même, » lança-t-elle sans aménité. « Vous pouvez pas être plus surprise que moi, » dit Mrs. Lacey. Cela décida Mrs. Allen à sortir promener le chien. Elle se sentait irritée, hautaine, et en traversant les champs, essaya de toutes ses forces de ne plus penser à Mrs. Lacey et à ses ennuis, mais sans succès. « La pauvre malheureuse, » se répétait-elle, avec une animosité qui confinait à l'amertume. Elle revint sur ses pas lorsqu'elle s'aperçut que des nuages aux formes effilées obscurcissaient rapidement le ciel. Avant qu'elle ait pu regagner la maison, il se mit à pleuvoir. Ses cheveux ruisselants se plaquaient en bouclettes contre sa tête. Son lainage dégageait une odeur d'animal mouillé. « Je suis trempée !» s'écria-t-elle en poussant de toutes ses forces la porte de la cuisine. Tout de suite, elle comprit que Mrs. Lacey était partie. Elle avait dû remettre son manteau et s'en aller dès que Mrs. Allen avait tourné les talons, car elle n'avait fait aucun ménage. La vaisselle était à peine commencée et le plancher n'avait pas été balayé. Sur la pile d'assiettes, elle trouva un petit mot disant que Mrs. Lacey s'était sentie toute chose, que la tête lui tournait, qu'elle faisait respectueusement ses excuses et s'en allait. Avec colère et méthode, Mrs. Allen entreprit de réparer les dégâts de la matinée. L'après-midi, son visage avait pris une expression courroucée dont elle n'arrivait plus à se départir. « Comment a-t-elle osé ?» murmurait-elle sans jamais aller jusqu'à se demander ce qu'avait bien pu oser la femme de ménage. Pendant ces heures de solitude, Mrs. Allen s'octroyait mille petits plaisirs qui, au fil des années, avaient pris une telle importance que manquer sa tasse de thé de 4h30 lui aurait semblé le signe avant-coureur de quelque désastre. Dans le désordre de cet après-midi, Elle renonça à porter, comme à l'ordinaire, son plateau jusqu'à la table près de la cheminée. Elle se versa une tasse de thé dans la cuisine et Trélas la but sur place, appuyée contre le buffet. Puis elle monta dans sa chambre remettre de l'ordre dans sa toilette. Alors qu'elle se brossait les cheveux pour tenter de les défriser, la sonnette de l'entrée retentit. Quand elle ouvrit la porte, elle vit nettement l'anxiété faire place à de l'étonnement sur la figure de l'homme qui se tenait devant elle. Il y avait quelque chose en elle qui le surprenait, à quoi il ne s'attendait pas. « Mrs. Allen ?» demanda-t-il d'un air hésitant. Même après qu'elle eut répondu, il semblait encore étonné. « Eh bien, je suis venu voir rapport à ma femme, » dit-il. « Mrs. Lacey, elle travaille ici. »«
Je me faisais du souci pour elle, » répondit Mrs. Allen.
Elle comprit qu'elle ne pourrait éviter d'entendre Mr. Lacey lui parler de la pénible situation de sa femme. Et elle l'invita à entrer dans le bureau de son mari, où, pensait-elle, il aurait l'air mieux à sa place que dans le salon tendu de Broca. Il jeta tout autour de lui un regard sans aménité et fixa le plancher que sa femme avait ciré. Cette pensée lui traversa l'esprit et il dit brusquement « Tout ça la fatigue !» Il s'assit sur un divan tendu de cuir, posant sa casquette et ses pinces à vélo près de lui. « Je suis revenu prendre mon thé et je l'ai trouvé au lit en larmes. » Rien de plus vrai. Mrs. Lacey, succombant au désespoir, était allée s'étendre. À 4 heures, elle s'était sentie mieux et était descendue à la recherche d'une douceur à se mettre sous la dent. Malheureusement, elle avait mal choisi sa tranche de beignet et ses nausées et ses pleurs avaient repris. « Si elle continue à venir ici, il faudra que ça change, » déclara M. Lacey d'un air menaçant. Ce qu'il avait à dire le rendait nerveux, et les mots ne sortaient de sa bouche que poussés par la colère. « Je ne sais pas si vous connaissez son état. »«
Oui, » dit timidement Mrs. Allen.
« Ce matin, elle m'a dit qu'elle pensait que... »«
Il n'y a rien à penser. C'est clair comme de l'eau de roche. »
Pourtant, il y avait de l'incrédulité et même de la stupéfaction dans son regard. Il fronça les sourcils et se remit à contempler le plancher bien ciré. De 20 ans plus âgé que sa femme, à ce qu'elle disait en tout cas, le petit homme voûté, aux jambes arquées, un ancien jockey peut-être, paraissait hors d'âge à Mrs. Allen. Ses yeux bleus avaient quelque chose d'enfantin. Il semblait à la fois obstiné et pathétique. Le gros épagneul de Mrs. Allen fit son entrée, et fonça vers l'étranger, dont il se mit à renifler le pantalon de velours.
« C'est trop lourd pour elle !» dit M. Lacey. « On ne peut pas lui demander ça !»
Mrs. Allen, horrifiée, vit ses yeux bleus se remplir de larmes. Dans l'espoir de dissimuler son émotion, il se pencha vers le chien qu'il se mit à caresser rudement, comme par jeu, avec son poing fermé.
C'était un homme perdu, complètement déboussolé. Son mariage lui était devenu trop lourd à porter. Il y avait là trop de choses qu'il ne comprenait plus.
Maintenant que je suis au courant, je m'arrangerai du mieux que je pourrai, lui dit Mrs. Allen. J'essaierai de trouver quelqu'un d'autre pour faire les gros travaux.
Le problème, c'est tous ces soirs où elle rentre tard, répondit-il. Elle est lessivée quand elle arrive à la maison. Soir après soir, ça vaut pas le coup. Je lui ai dit comme ça, ils n'ont qu'à s'occuper de leurs enfants eux-mêmes, une fois de temps en temps. On n'a pas besoin de cet argent.
Je ne comprends pas, commença Mrs. Allen. C'était à son tour de se sentir déboussolé. Il lui semblait être en vue de quelque rivage inconnu et hostile, et elle craignait de s'en rapprocher par quelque mouvement inconsidéré.
Je gagne bien ma vie. Si elle faisait ça, c'était juste pour se payer des extras. Elle a toujours eu le goût des vêtements. Tant que c'était dans la journée, j'avais rien à dire. Et puis, tous ces cocktails ont commencé. Je n'arrive pas à comprendre comment vous pouvez aller boire tous les soirs en payant quelqu'un pour garder vos enfants. Vous direz peut-être que je me mêle de ce qui ne me regarde pas, mais c'est moi qui reste tout seul à la maison jusqu'à plus d'heure. Je dois me faire à dîner, et ma femme, je ne la vois pour ainsi dire jamais. Il y a 10 soirs où je ne tiens plus. Une fois, j'ai failli foncer dehors quand j'ai entendu la voiture qui arrivait en bas de la rue. J'avais bonne envie de dire à votre mari ce que je pensais de vous deux.
« À mon mari ?» murmura Mrs. Allen.
« C'est-il ma femme ou bien c'est-il votre gouvernante que je lui aurais demandé ? On n'a pas aidé de la ramener si tard. Et pas la peine de dire qu'elle était libre de refuser. Jamais elle n'aurait fait ça. »
Le calme de Mrs. Allen finit par avoir raison de la colère qu'il avait tenté de faire monter en lui. L'allure de cette femme aussi le faisait hésiter. Ce comportement hésitant et sérieux à la fois, et puis il y avait son âge qui l'avait stupéfait. Il s'était imaginé quelqu'un de beaucoup plus jeune, et à cause de ces histoires de cocktails, de beaucoup plus insouciant. Au lieu de cela, il retrouvait en elle son désenchantement, sa tristesse. Il reprit sa casquette puis ses pinces à vélo et les regarda un instant en les retournant entre ses mains.
« Fallait bien que je vienne, » dit-il.
« Oui, » dit Mrs. Allen.
« Alors, vous ne lui demanderez plus, » supplia-t-il.
« Ce n'est pas juste pour elle, pas dans son état.
Je ne lui demanderai plus, » promit Mrs. Allen.
Elle se leva en même temps que lui et l'accompagna jusqu'à la porte. Il se baissa pour donner à l'épagneul une dernière caresse.
« Vous m'en voulez pas d'être venu, j'espère ?»«
Bien sûr que non.
Ça aurait servi à rien de lui parler. Si on lui demande quelque chose, elle ne sait pas dire non. Elle est comme ça. »
Mrs. Allen ferma la porte derrière lui et resta dans le vestibule, d'où elle l'entendit pousser sa bicyclette sur le gravier. C'est alors qu'elle se sentit rougir. Elle fut soulagée d'être seule. Son visage, sa gorge, le haut de ses bras même semblaient en feu. Elle prit le plus vif intérêt à étudier dans un miroir cet étrange phénomène.